Le vivre ensemble à Cannes, vu par la communauté protestante et anglicane de Cannes ce matin avec Pierre Lacoste. Pierre Lacoste, pardon, à nos côtés, et Gilles Williams, que l'on reçoit aujourd'hui. Gilles Williams représentant l'église anglicane et Pierre Lacoste représentant l'église évangélique libre. Et je voulais juste vous demander quelque chose sur le mot libre. Pourquoi avoir rajouté libre ?
Ah, mais parce que les églises évangéliques libres sont nées au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, sur une conviction de ne pas rester liées à l'État. Or, toutes les églises étaient sous le concordat napoléonien jusqu'en 1905, et donc les pasteurs, les prêtres aussi, étaient payés par l'État. Et donc les églises libres, comme l'école libre, ont décidé de s'affranchir de la tutelle de l'État.
Se sont constituées
en 1849 sur cette base de séparation
de
l'Église et de l'État.
Donc la laïcité, 50 ans avant, c'est parfait.
Dans toutes les églises libres, toutes les églises aujourd'hui sont libres.
Oui, bien sûr.
Nous étions un peu prophétiques, disons, à ce moment-là.
Bon, alors, nous en revenons à ce texte d'orientation qui nous parle d'œcuménisme, on en a parlé, d'interreligieux et d'interculturel, et qui demande aux protestants de dépasser tout repli identitaire et confessionnel, souvent lié à une forme de peur. Est-ce qu'on a peur de quoi, en fait ?
On a peur de la différence, on a peur de ce que représente l'autre dans son mystère. On a peur aussi, d'une manière moins intelligente peut-être, aucune peur n'est vraiment intelligente, mais on a peur de ce que les médias nous enseignent sur ce que cet autre représente comme menace. Et donc là, il y a des choses qui ne sont pas rationnelles, qui sont de l'ordre de repli, justement. Alors, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on se blinde, on réaffirme haut et fort ces principes identitaires, surtout pour que l'autre ne vienne pas nous embrouiller.
Déranger tout ça. On se referme là derrière. Et Gilles Williams, pour l'église anglicane, vous disiez tout à l'heure, elle est surtout anglophone. Et un jour, nous avions discuté, vous m'aviez dit, mais en fait, nous, au sein de l'église anglicane, on reçoit des personnes effectivement de toute nationalité, hein, en l'occurrence sur Cannes, qui peuvent venir de différents pays, différentes nationalités, différentes cultures. Mais est-ce que vous avez déjà des liens interreligieux, c'est-à-dire ces liens avec ces autres qui sont quand même un peu plus différents que d'être anglais, français ou...
Bon, à l'intérieur de notre communauté à Cannes, oui, on est normalement le dimanche, on est une centaine de personnes avec une vingtaine de nationalités. Plusieurs traditions chrétiennes, anglicans, catholiques, orthodoxe, copte, baptiste, pentecôtiste, méthodiste, je continue. Hein,
c'est... Bon, d'accord.
Et des cinq continents. Et là, je trouve que c'est très riche, très enrichissant pour nos gens, pour élargir notre vue de ce que Dieu fait partout dans
le
monde.
Voilà, mais ça, c'est pour l'Église, c'est pour la messe, c'est pour le moment de partage de foi.
Oui.
Dans un petit instant, on va parler d'un autre défi, le défi du vraiment différent. C'est ce dont nous parle d'ailleurs Paolo Morlachetti. Il nous parle de ce texte d'orientation en nous disant qu'il nous place devant un défi.
Je pense que ce texte de la Fédération protestante de France, ce texte d'orientation, nous place devant un véritable défi. Parce qu'au fil d'un siècle de mouvements œcuméniques, bien sûr, nous nous sommes installés dans nos acquis, dans nos habitudes, dans nos traditions. Il nous appelle à sortir, à partir à la rencontre des autres, à nous remettre en question en quelque sorte, parce que c'est vrai qu'on est bien entre amis, mais peut-être parfois, lorsqu'on est bien, notre cercle risque de se fermer. Alors, ce document, ce texte, nous ouvre à la rencontre avec l'autre, nous ouvre en quelque sorte à l'inattendu, parce qu'en fait, le dialogue œcuménique, tout comme le dialogue interreligieux, est aussi un pari qu'on fait dans un horizon d'inattendu. Et je pense que ce que nous devons vivre, nous, les églises chrétiennes historiques, déjà engagées dans ce dialogue depuis très longtemps, c'est de faire le pari du discernement, savoir discerner autour de nous de frères et de sœurs qui peuvent être ouverts à ces dialogues, même si avant ne l'étaient pas forcément, et oser partir à leur rencontre. Peut-être laissant derrière nous certaines habitudes, certains acquis, certaines sécurités. Au fait, le dialogue est une remise en question perpétuelle.
Eh oui, le dialogue est une remise en question perpétuelle, Pierre Lacoste.
Mais je crois que c'est ce concept de dialogue est assez intéressant. Il faut y revenir un peu. Il y a plusieurs manières de dialoguer. Il y a pas, on parle souvent du dialogue. En réalité, je crois qu'il y a des façons de dialoguer. Il y a une façon qui est une façon conciliante, apaisante, qui consiste à aller à la rencontre de l'autre et puis à développer avec lui des liens d'amitié en disant on ne va pas trop fouiller nos différences. Ce qui compte, c'est de se reconnaître comme amis. Et de ce point de vue, le texte que j'ai lu ce matin, en Luc 10, nous montre Jésus envoyant les 72 disciples en mission et qui dit, quand vous arrivez quelque part, dites d'abord, le mot d'abord est dans le texte original, dites d'abord la paix soit sur cette maison. On peut le dire, on peut le dire en hébreu Shalom Aleichem, on peut le dire en arabe Salam Aleikum, on peut le dire en latin Pax Vobiscum, on peut le dire en français et en anglais dans toutes les langues du monde. D'abord la paix, ce qui est un, je dirais, le dialogue conciliant, c'est celui-là, de dire d'abord paix, paix à toi, mon frère, ma sœur. Et je dirais qu'on peut faire un certain chemin dans. Mais quand Jésus dit dites d'abord, ça veut bien dire aussi qu'il y a un après. Et dans cet après, il y a la notion de vérité. Et c'est l'autre aspect du dialogue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans le dialogue des choses bonnes à vivre pour l'amitié. Il y a aussi des choses plus difficiles et qui sont également à accueillir dans l'idée de dialogue. On ne peut pas faire sans. Je dirais que c'est plutôt cette fois le débat pointu. Qui sommes-nous ? Comment ma vérité, finalement ? Comment j'y tiens, comment je la présente, comment est-elle d'ailleurs de mon point de vue d'une meilleure qualité que la tienne, ma vérité. Et là, on entre dans un débat qui peut faire mal, mais qui, à mon sens, fait partie d'un véritable dialogue.
D'autant qu'il y a un truc qui m'a interpellée quand même dans ce texte d'orientation. À un certain moment, il est donné quelques pistes et alors il est dit, bon, on peut travailler son interreligieux, sa relation interreligieuse, en développant des relations avec les autres traditions religieuses et spiritualités. Et la ligne du dessous, il est écrit, en approfondissant les échanges avec l'islam, comme s'il y avait une spécificité.
Puisque si vous avez bien lu, il y a une ligne pour le judaïsme, on commence par le judaïsme dans ces dialogues, une ligne ensuite pour l'islam, et ensuite une ligne pour les spiritualités.
D'accord.
Sous-entendu, le bouddhisme, l'hindouisme et d'autres philosophies orientales. Mais donc, il y a une sorte de chemin interreligieux qui part, pour nous, chrétiens, en premier lieu vers les juifs, qui sont nos plus prochains, étant donné que nous partageons la Bible, puis ensuite avec les musulmans, qui sont une religion monothéiste avec qui nous partageons ce concept de Dieu unique, et enfin, au bout du dialogue, avec les spiritualités orientales.
Alors, on parle aussi dans ce texte, et là, c'est un sacré travail, accentuer le travail transversal. Alors, sur la transversalité, je veux bien qu'on écoute Paolo Morlachetti et que vous réagissiez, Pierre Lacoste et Gilles Williams, sur ce qu'il nous dit à propos de la transversalité.
La transversalité est très importante. Le texte pose des exigences très importantes et à mon avis indispensables dans le dialogue. La première, c'est l'humilité. En fait, partir à la rencontre de l'autre sans avoir la conviction que c'est nous qui sommes les ambassadeurs du meilleur du monde possible. Ça, c'est un peu une tendance, parce que bien sûr, c'est profondément humain. Chacun, il se sent un peu détenteur de la vérité. Le fait de pouvoir se mettre à la portée de l'autre, initier un vrai dialogue qui n'est pas un dialogue qui va du haut vers le bas, mais c'est un dialogue qui est parfaitement à un même niveau. L'honnêteté intellectuelle et l'exigence théologique, c'est ce qui manque parfois dans le dialogue interreligieux, parce qu'on a la tendance à mettre plus l'accent sur la fraternité et la convivialité que sur les discussions théologiques. Eh bien, je pense que si on a cette humilité qui nous porte à voir dans l'autre qui n'a pas notre même tradition religieuse, un frère, une sœur, alors à ce moment-là, nous pouvons aller vers lui dans un vrai dialogue théologique, dans une vraie démarche intellectuelle. Nous pouvons arriver à valoriser non seulement les différences, mais aussi les convictions communes, parce qu'elles ne manquent jamais. Le dialogue devient vrai et ce n'est plus un monologue. Là encore, le vivre ensemble, c'est une occasion justement pour pouvoir développer ces caractéristiques qui sont nécessaires au dialogue interreligieux.
les qualités nécessaires au dialogue interreligieux. Est-ce qu'on est dans des qualités différentes de celles qui sont nécessaires au dialogue œcuménique ?
Moi, je ne crois pas. Je crois que ce sont les mêmes qualités psychologiques, personnelles, qu'il faut mettre en œuvre. Celles de cette...
C'est quand même un autre monde,
oui.
Malgré tout.
Non, non. Alors, les contenus sont différents. Mais les approches me semblent être... mu par les mêmes principes,
bien sûr,
en
bien
tout
sûr.
Cas, celle de, de ce parti pris pour l'ouverture, pour la prise de risque d'un déplacement personnel par rapport à ce que je croyais que l'autre était. Et j'ai un exemple qui m'a frappé, c'est que quand j'ai rencontré le recteur de la mosquée de Cannes, oui, Mustapha Dali, la première fois, nous avons bu un café ensemble, et je lui ai posé une question sur l'islam, et il s'est mis à prêcher. Il s'est mis à prêcher parce que pour lui, parler de l'islam, c'est prêcher. Et il faisait il me faisait part de sa conviction avec énormément de, avec une grande passion, avec un amour pour ce qu'il croyait. J'aurais pu d'ailleurs presque m'éclipser en douce et ça l'aurait pas dérangé. Il était tellement dans sa dans sa démonstration de, et je trouve que c'est quelque chose de très beau. Non pas d'essayer de forcément d'annihiler l'autre dans sa différence, de l'annexer ou de l'écraser, simplement de lui faire part de notre passion pour ce que nous croyons profondément. Et j'ai
Est-ce
pas eu l'occasion...
Est-ce que c'est une religion beaucoup plus jeune, l'islam, qu'elle
je
est
crois
encore
pas.
Pleine de passion ou pas ?
Posez-moi une question sur ce que je pense de Jésus-Christ. Vous allez voir avec quelle passion
je suis capable d'en parler. Dès qu'on a une heure et demie d'émission, je vous promets, je vous pose la question.
Je ne chercherai pas, ce faisant, à vous écraser de ma foi. Mais je témoignerai avec passion de mon amour pour Jésus-Christ. Et c'est, je dirais... tout à fait recevable, ça, par l'autre, cet aspect-là.
Gilles Williams, l'interreligieux, alors, pour les Anglicans, est-ce que ça a un sens ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça se développe ? Ou est-ce qu'on vit juste à côté, sans plus ?
Ah non, je crois que c'est, comme le disait Pierre, c'est un peu le même esprit que pour les relations entre les églises chrétiennes. Que si on rencontre jamais un catholique, si on est protestant, on peut imaginer toutes sortes d'histoires et de fables.
Oui, l'histoire nous
l'a raconté, ça doit être le contraire aussi. Hein.
Bien sûr.
Et les mêmes choses arrivent avec n'importe qui est différent. On a tendance à craindre l'autre, celui qui est différent.
Oui, mais pour vous, dans votre église, vous me disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes, parfois aussi de passage, hein, qui vont pas rester là souvent. Donc, est-ce qu'il est vraiment possible de travailler là, sur ce sujet-là, ou est-ce que c'est plus complexe pour vous ?
Ça, c'est une autre question. Mais non, pour ceux qui sont à Cannes, je crois que de permanence, il y en a beaucoup. Je crois que pour eux, ils rencontrent des musulmans, des juifs dans leur vie quotidienne. Alors, mieux vaut qu'ils les rencontrent d'une façon pour parler avec eux, pour mieux les connaître, pour découvrir que ces gens-là, des traditions différentes, sont faites en chair et en os comme nous autres.
Hein. C'est pas
oui,
possible.
Et que nos différences...
Oui, on les invite à venir au prochain festival.
Ces différences qui sont irréductibles. Entre islam et christianisme, entre judaïsme, christianisme, islam, il y a des différences irréductibles.
Mais qui peuvent nous enrichir et non pas nous opposer.
Elles peuvent nous déranger aussi, peuvent nous agacer aussi terriblement, mais qu'elles ne soient pas la cause de fermeture. Elles peuvent être simplement des sujets de dialogue, des sujets de dialogue pointus cette fois, de dialogue contraignant, de dialogue difficile. Mais on peut, et je crois que là, nous sommes en plein dans les enjeux de notre société française, de produire du lien, de produire aussi de la paix ensemble. Et si nous ne faisons pas de ces différences irréductibles des remparts contre le dialogue, nous parviendrons à produire cette paix et ces liens de dialogue.
Alors, par rapport à votre participation au Vivre Ensemble à Cannes, que ce soit au festival ou aux différents événements, aux réunions, puisque vous faites partie de ce Vivre Ensemble à Cannes, il y a la nécessité au sein du Vivre Ensemble, mais c'est la même chose au sein de toutes les églises, de la transmission. C'est-à-dire qu'une fois que tout ça a été vécu, il faut le dire aux autres, il faut le transmettre, il faut essaimer, il faut planter, comme on dit, il faut cette graine, il faut la planter pour espérer qu'elle pousse à un certain moment.
Oui, c'est pas le plus simple, ça. Hein.
Oui, bah oui, justement.
Je crois que chaque responsable...
Ça fait partie des recommandations, d'ailleurs, hein, d'essayer d'essaimer.
Nous avons des grandes difficultés, tous, chaque responsable de communauté, à transmettre, à faire adhérer à cette ouverture-là. Et je respecte cela. Je n'impose pas du tout aux membres de ma communauté les rendez-vous de l'interreligieux. Je les communique à ceux qui peuvent l'entendre, à ceux qui sont prêts pour ça. Je crois qu'il faut avoir beaucoup de pédagogie, là. Nous avons, en tout cas, rejoint la chorale interreligieuse,
oui.
les chanteurs de l'église évangélique libre de Cannes ont rejoint à plusieurs occasions. J'espère que ça se poursuivra encore.
Mais oui, bien sûr que ça se poursuivra au sein des actions du Vivre Ensemble à Cannes. Alors vous tous qui êtes protestants, anglicans, catholiques et plus et autres, si on, évidemment on en oublie, on vous invite à venir nous rejoindre sur notre site internet www.vivreensembleacannes.org. Une date peut-être que l'on peut retenir, le premier synode de l'Église protestante unie de France dont nous parlait Paolo Morlachetti, qui se déroulera à Lyon les 8, 9, 10 et 11 et 12 mai 2013. Et puis on peut vous retrouver l'Église évangélique libre Pierre Lacoste sur internet www.eelcannes.org. C'est très joli, EEL, c'est Église évangélique libre de Cannes. L'Église anglicane sur holytrinitycannes.org. C'est bon,
c'est
Gilles Williams. Un mot de la fin, les mots de la fin aujourd'hui seront: notre Dieu est plein de tendresse et de bonté, il a fait briller sur nous une lumière venue d'en haut comme celle du soleil levant, elle éclairera ceux qui vivent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, elle guidera nos pas sur la route de la paix. Luc 1, 78-79.
Très beau, merci.
C'est joli, ce texte m'a beaucoup touchée. Je prie pour que tous soient un, Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi, qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ça c'est Jean, et c'est beau ça aussi.
Jean 17, oui.
C'est presque triste. Je trouve qu'il y a, il y a quelque chose de triste et de doux là-dedans.
L'espérance n'est pas triste.
Oui, mais je prie pour que tout soit un. Ça veut dire qu'ils ne le sont pas, en tout cas. Écoutez, merci d'être avec nous. Continuez à nous aimer sur Facebook, Vivre Ensemble à Cannes. Réécoutez cette émission en podcast sur le site de RCF. La semaine prochaine, eh bien, les femmes de foi seront à l'honneur pour fêter dignement la Journée internationale de la femme. Vous serez toutes et tous les bienvenus naturellement. Et je finis avec quelques mots de Jean Ferrat. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre ? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant ? Que serais-je sans toi que ce balbutiement ? Au revoir.